Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Alia Tovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique, Jean Frédérics. Peu de concepts ont suscité autant de débats que celui de mondialisation. Certains historiens en décèlent les prémices dès la Rome antique. Plus souvent, c'est le XVIe siècle qui fait office de date de naissance, ou plutôt de point de départ d'un processus qui connaîtra plusieurs vagues. Avec l'émergence du capitalisme, les échanges se sont intensifiés et nos économies sont devenues de plus en plus dépendantes les unes des autres. C'est alors qu'un grain de sable nommé coronavirus est venu gripper les rouages d'une mécanique bien rodée. Alors peut-on réparer la mondialisation? C'est la question cruciale qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons esquisser les contours d'une autre mondialisation en compagnie de trois économistes, Laurence Daziano, maîtresse de conférence à Sciences Po et membre du conseil scientifique de la Fondapol, François Gérolf, professeur assistant à l'Université de Californie, et Cécilia Bellora, chercheuse au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. À 14h45, c'est un livre de Christian Saint-Étienne, Le libéralisme stratège contre le chaos du monde, qui rejoindra notre bibliothèque de l'écho. L'économiste affirme la France peut retrouver sa puissance économique d'antan, il nous expliquera comment.
L'époque est hors de ses gonds. Tout, à commencer par le temps, paraît déréglé, injuste ou désajusté. Le monde va très mal. Il s'use à mesure qu'il prend de l'âge, comme dit aussi le peintre à l'ouverture de Timon d'Athènes. How goes the world? It wears, sir. As it grows. Dans la traduction de François-Victor Hugo, il s'use, monsieur, à mesure qu'il croît en âge. Cette usure dans l'expansion, dans la croissance même, c'est-à-dire dans la mondialisation du monde, ce n'est pas le déroulement d'un processus normal, normatif ou norme. Ce n'est pas une phase de développement, une crise de plus, une crise de croissance, puisque la croissance est le mal. It wears, sir, as it grows.
Cécilia Bellora, Laurence Daziano et François Gérolf, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait des Spectres de Marx de Jacques Derrida, lu par Yvan Moran dans Les Chemins de la philosophie. Un livre qui est paru en 1993, au lendemain de la chute de l'URSS. Le monde s'use à mesure qu'il croît en âge, fait dire Shakespeare au peintre dans la pièce Timon d'Athènes. La mondialisation aussi s'use au point peut-être de se déchirer, François Gérolf.
Alors c'est vrai qu'on a eu tendance un petit peu ces dernières années à voir la mondialisation comme un processus qui allait de l'avant nécessairement, qui avançait. Je crois que la mondialisation est en difficulté en réalité depuis un moment. On avait bien vu au moment de la crise de 2008 que l'ensemble des économies avancées s'étaient mis d'accord, au G20 notamment, pour réaffirmer leur amour de la mondialisation, le fait qu'il ne fallait surtout pas avoir de tarifs douaniers, de protection douanière, de limiter les importations. Ce qu'on voit lors de cette crise, c'est que c'est un petit peu différent. Et la raison, à mon avis, pour laquelle c'est différent, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 2008, et notamment le Brexit et l'élection de Donald Trump en 2016, qui font que aujourd'hui, il y a peut-être un amour de la mondialisation qui est un petit peu moindre. Et en fait, si on regarde l'histoire, la mondialisation, c'est quelque chose qui va et qui vient. Au 19e siècle, il y avait beaucoup de mondialisation, et puis il y a une période dans l'entre-deux-guerres notamment où on a moins de mondialisation, et je crois que ce qu'on vit actuellement, c'est un de ces cycles de moins de mondialisation, et que finalement la réponse à cette crise va être dans la direction de moins de mondialisation et d'un monde d'après, précisément.
Un moindre amour qui ne date pas d'hier ni de la pandémie. En effet, Laurence Daziano, ça fait plusieurs années que sont pointées du doigt les conséquences de la globalisation sur l'environnement, sur les inégalités. Mais là, le Covid semble avoir relancé de façon impérieuse le débat sur la nécessité, sinon de démondialiser, au moins de changer la mondialisation.
Oui, le Covid est un révélateur de fractures qui existaient déjà auparavant, mais que l'on ne voulait pas voir, et quand on les voyait, que l'on cachait discrètement pour ne pas avoir à les traiter. Mais comme on a dit, depuis 2008, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et notamment tout ce qui a été vers les crises de mondialisation ou les symptômes de cette crise de la mondialisation. On a cité l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donald Trump qui, dès son arrivée, a remis en cause l'ordre économique mondial. Il s'est retiré du traité transpacifique qui était justement un moyen de contenir la Chine. Il a voulu renégocier l'ALENA. Il se sert de manière outrancière et dévoyée de la sécurité nationale pour mettre des droits de douane quand il veut exercer une pression politique. Mais on voit bien que les problèmes de la mondialisation, c'était même déjà avant. On a la crise de l'OMC qu'on n'arrive toujours pas à résoudre, et en plus avec un directeur général qui a démissionné en pleine pandémie. Donc là, il faut trouver un nouveau directeur général.
Il faut expliquer que l'organe de règlement des différends de l'OMC est complètement paralysé aujourd'hui.
Voilà, complètement paralysé. C'est l'organe d'appel de l'organe des règlements des différends qui est totalement paralysé. Il devrait être constitué de 7 juges qu'il faut nommer. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un parce que toutes les nominations ont été bloquées par Donald Trump. Mais il y avait aussi, avant même la crise du Covid, on voyait que le multilatéralisme se transformait en bilatéralisme. Avant, on négociait dans le cadre de l'OMC, et de plus en plus, on a vu fleurir des accords qui étaient États-Unis, Canada, c'était le fameux CETA. On est toujours en train de négocier, Union européenne, Canada pour le CETA, Union européenne, Mercosur qui est toujours en train de discuter. Et puis surtout, l'Union européenne s'est sortie du cadre multilatéral et signe des accords de libre-échange directement, y compris avec des pays émergents comme le Vietnam et comme Singapour. Donc, on voit vraiment que de multilatéralisme, on est passé à un bilatéralisme avant même la crise du Covid.
Mais peut-être que les critiques à l'égard de la mondialisation étaient davantage cantonnées à un certain espace politique. Cécilia Bellora, aujourd'hui, tout le monde a presque a pris conscience des limites de cette mondialisation, notamment parce que finalement on peut aussi considérer que ce sont les chaînes de valeur, par exemple, et la circulation des individus qui ont permis cette transmission extrêmement rapide du virus.
Alors absolument, en fait il est assez intéressant de mettre face à face cette montée des critiques et surtout cette discussion assez libre et ces réflexions multiples sur cette question des difficultés de la mondialisation d'un côté, et de l'autre côté de regarder ce qui se passe dans les données. Parce qu'en fait, quand on regarde les données sur les valeurs échangées à travers le monde, en fait, on ne voit pas de chute des flux de commerce. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de la crise de 2008, il y a une stabilisation. On considère en fait qu'il y a effectivement eu un changement de régime. On est passé d'une croissance qui était extrêmement importante, mais qui était presque trop importante, ce n'était pas ça la normale, vers un régime qui semble aujourd'hui plus normal. Et donc en fait, aujourd'hui, depuis 2010, donc la reprise quand même après la crise de 2008, on a à la fois des exportations qui en fait augmentent au même rythme que la production industrielle dans l'ensemble des pays développés, émergents, hors la Chine. La Chine par contre a eu un recentrage sur sa propre économie, et c'est ça qui d'ailleurs du coup influence les chiffres quand on regarde au niveau mondial. Mais quand on regarde par zone, c'est un peu différent. On voit également que les chaînes de valeur qui se sont mises en place. Donc, rappelons, les chaînes de valeur, c'est ce processus qui fait qu'on a fragmenté le processus de production en toutes petites étapes. Et ces étapes ont été, en fait, délocalisées entre les pays en fonction des avantages comparatifs des uns et des autres. Et donc, du coup, on a énormément d'échanges qui sont liés à ça, parce qu'un produit commence à être assemblé à un endroit, puis il est exporté, on ajoute une petite composante, il est réimporté, voilà.
Parfois, il y a 150 étapes.
Ah oui, du coup, ça peut être vraiment très complexe. Et en fait, on a quelques indicateurs pour suivre ces chaînes de valeur, enfin, en tout cas, regarder leur structure. Un de ces indicateurs, par exemple, c'est tout simplement la part de composantes intermédiaires, donc de ces petits ajouts à chaque fois qui sont échangés. Et en fait, on voit que cette part est restée stable en fait depuis 2010. Et idem, on peut regarder les investissements à l'étranger des multinationales, et ça aussi, ça reste stable. Donc c'est assez intéressant de regarder, en fait, de mettre les deux face à face.
En revanche, ce qu'on constate, c'est que cette mondialisation a marqué le pas pendant le confinement à cause du virus. Laurence Daziano, les exportations et les importations ont chuté de façon drastique. Avec quelles conséquences ?
Vous avez eu, je crois que c'est pour la première fois, en tout cas dans l'économie moderne, à la fois un choc d'offres et un choc de demandes, ce qui s'était jamais vu. On a quand même mis la moitié de l'humanité à la maison, l'autre moitié, étant dans l'informel, donc continuant à travailler quand même. Et puis dans les pays développés, les métiers absolument nécessaires. Effectivement, ce choc, alors il y a quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les pays émergents. Et on voit dans ces importations, ces exportations, il y a aussi tous les transferts, et notamment les transferts monétaires. Et on a vu que les transferts monétaires de tous les travailleurs migrants ont baissé pendant la période, enfin vont baisser en 2020 à cause de la crise Covid par rapport à 2019 de 20%, ce qui est absolument énorme, hein, ça fait 100 milliards de dollars. Hein.
Vous vouliez réagir à cela, Cécile Bellera ?
Absolument, juste compléter avec des chiffres du coût européen, puisqu'on était en train de regarder ça très récemment avec des collègues. En fait, il faut se dire que sur le commerce international, on a toujours un peu de retard, parce que les données qui sortent ont toujours quelques mois de retard. Et donc, aujourd'hui, sur l'Union européenne, on a des données fraîches, enfin les plus récentes, c'est le mois de juin. Et c'est le mois de juin en extra-européen, pas en intra-européen. Et donc, justement, en regardant ça, on voit qu'on a à peu près une chute de l'ordre de 30% en valeur des importations et exportations européenne, ça c'est en moyenne, hein, donc avec des pics plus bas en mars. Donc c'est considérable, on n'avait jamais vu ça.
Et ce sont des restrictions qui pouvaient être liées à la volonté très simplement de préserver des stocks de masques, de respirateurs, d'autres matériels médicaux. On voit que ces tentations protectionnistes, Cécilia Bellera, elles ont existé même au sein de l'Union européenne.
Alors, effectivement, les chiffres que je vous ai donnés sont le résultat de plusieurs choses. Vous avez tout simplement, comme le disait Madame Daziano, une baisse de la demande et une baisse de l'offre. Et puis, il y a eu également des mesures de restriction des échanges. Il n'y a pas que l'Union européenne qui en a pris, c'est quelque chose qu'on voit dans différents pays. Ces mesures ont principalement touché soit des équipements médicaux, soit de l'alimentation. En particulier dans les pays en développement, c'est plutôt une question de restriction des exportations de l'alimentation. En Union européenne, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'abord dans les 15 premiers jours du mois de mars, quand la pandémie était en train d'arriver mais ne touchait pas encore tous les pays, on a vu des restrictions d'exportation, en particulier de masques par exemple, mais pas uniquement, pris par certains États uniquement. Et on se souvient en fait de la position très difficile de l'Italie qui n'arrivait plus à importer des masques en provenance de France et d'Allemagne puisque les cargaisons étaient bloquées à la frontière par la France et l'Allemagne. Ensuite, du coup, le 15 mars, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des discussions en fait au niveau européen et il y a eu un accord en disant bon, on arrête les restrictions intra-UE. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on met en place un système d'autorisation d'exportation vers l'extérieur de l'UE. Donc si vous voulez exporter des masques, des gants, des survêtements, vous devez demander une autorisation d'exportation. Résultat, on voit en fait une chute à partir du mois de mars vraiment drastique. Donc c'est de l'ordre de -60, -70% des exportations vers l'extérieur de l'Union européenne de ces équipements de protection. En parallèle, on voit une augmentation des échanges intra-européens de ces produits. Donc ça a marché. Quelque part, on a réussi à faire repartir les choses en interne, en sachant que cette augmentation, ce sont les seuls produits qu'on a vu augmenter dans les échanges.
Et alors ça, qu'est-ce que ça nous dit, François Girolf, qu'il y a une accélération de la régionalisation de cette mondialisation ?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même un protectionnisme d'un genre assez particulier, dans le sens où habituellement le protectionnisme, c'est se protéger des importations et non pas de limiter les exportations. Donc le but habituellement est de favoriser le secteur industriel national, de favoriser les industries exportatrices nationales et donc d'empêcher la compétition qui vient des importations. Là, on a eu un protectionnisme d'un genre très particulier qui était de dire au contraire, on veut importer des masques au plus possible et on va empêcher les exportations des masques qu'on produit. Et on a vu ça notamment dans les aéroports chinois où on a pu voir les Américains acheter à prix en augmentant le prix des masques qui étaient prévus pour la France ou pour les pays européens. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, ce qui comptait, c'était de récupérer ces importations très précieuses. Et donc, c'est encore quelque chose de très inhabituel avec cette crise.
On comprend bien que cette mondialisation a été peut-être abîmée, bouleversée par cette crise, même si on l'a compris, cela datait bien sûr d'avant. Alors aujourd'hui, on peut se demander comment expliquer qu'il ait fallu une pandémie pour provoquer cette prise de conscience sur l'extrême dépendance de nos économies, extrême dépendance en particulier à l'égard de la Chine, Laurence Daziano.
Oui, alors déjà quand même, il faut rappeler que la base du commerce international, hein, c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Donc, par définition, commerce international, ça veut dire qu'on va échanger. Ensuite, on devient dépendant. Et ce que la crise a révélé, c'est qu'on était devenu dépendant, voire hyper dépendant, d'un seul fournisseur. Enfin, rappelons-nous quand même que pendant le confinement, le paracétamol était rationné. On pouvait acheter. Enfin, c'est quand même quelque chose. C'est le médicament de base, le paracétamol. Donc on en soit là, ça veut dire que vraiment il y a eu des hyperdépendances. Maintenant on sera toujours dépendant parce qu'on ne peut pas tout produire. Donc, on sera toujours dépendant de fournisseurs extérieurs. L'objectif et ce qu'a révélé la crise Covid, c'est qu'il faut diversifier ces dépendances. Donc c'est le révélateur, il est là. Oui, on est très dépendant parce qu'on s'est laissé entraîner dans ces supply chains, ces chaînes de valeur qui sont totalement marcelées, mais on en avait déjà tiré une première expérience, si vous vous souvenez, en 2011 avec le tsunami à Fukushima, où on s'était rendu compte que ce tsunami empêchait la production des voitures dans les usines occidentales parce qu'il y avait beaucoup de petites pièces qui étaient produites dans les usines japonaises qui avaient été touchées par les inondations. Donc on le savait, on en a plus ou moins tenu compte, peut-être que l'industrie automobile en avait déjà un peu plus tenu compte, et là ça a été le révélateur vraiment pour tout le monde.
Un révélateur de cette fragmentation internationale de la production. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est peut-être pas le principe de la chaîne de valeur qui est remise en question aujourd'hui, Cécilia Bellora, mais sa vulnérabilité.
Absolument. En fait, la question, c'est vraiment celle de la structure. En gros, les entreprises et du coup nos productions sont le résultat d'un équilibre entre les coûts de stockage sur place, les coûts d'approvisionnement et le risque qu'un fournisseur ne puisse pas vous fournir à temps. Et donc, ce que la crise du Covid a vraiment marqué, c'est la nécessité de réévaluer le risque sur les approvisionnements. Et donc, typiquement, exactement ce qu'on vient de dire, quand tout est localisé au même endroit, ça peut être problématique. Il y a un choc à cet endroit et c'est problématique.
On peut dire du coup que la théorie de David Ricardo, ce modèle théorisé par Ricardo des avantages comparatifs, il est aujourd'hui quelque peu dépassé.
Il est pas tant que ça dépassé, c'est juste une question d'équilibre. Enfin, on restera sur ces questions d'avantages comparatifs. Il y a chaque pays a un avantage, mais par contre, il faut absolument qu'on diversifie parce que sinon ça peut être trop coûteux si un fournisseur fait défaut quand vous êtes dans un système de flux tendu. Ça, c'est la deuxième grosse question qui s'est posée, c'est que quand vous êtes dans des systèmes à flux tendu, ce qui minimise les coûts, en fait, si le fournisseur fait défaut et que vous n'en avez qu'un seul, là, le coût explose parce que tout simplement, vous ne pouvez plus produire.
François Gérolf, sur la prise de conscience de cette vulnérabilité à des chaînes de valeur.
Oui, je nuancerais peut-être un tout petit peu ce point que... Alors, je suis évidemment d'accord avec cette théorie des avantages comparatifs. Il est tout à fait normal et souhaitable même que chaque pays se spécialise dans ce qu'il fait le mieux. En revanche, ce que je dirais, c'est que cette théorie de l'avantage comparatif fonctionne bien du moment qu'on a exportation égale importation, c'est-à-dire qu'on importe la même quantité que ce qu'on exporte. Et il me semble que la question qui se pose peut-être un tout petit peu plus pour la France et un petit peu moins pour d'autres pays européens comme l'Allemagne, c'est une dépendance qui est créée par le fait qu'on importe beaucoup plus de produits industriels que ce qu'on exporte. Et de fait, on a plus de chances d'être dépendant d'une importation qui est donnée. Et donc je pense que cette théorie de l'avantage comparatif mérite d'être nuancée par les déséquilibres commerciaux qui proviennent elles-mêmes des flux de capitaux qu'on a aujourd'hui Et qui remettent un petit peu en cause cette idée que on est forcément dépendant autant qu'on dépend des autres.
Mmh. Et voilà. Alors justement, qu'est-ce que cette crise a révélé à François Géroff de des capacités ou des incapacités industrielles de la France ?
Je crois que cette crise a montré tout de même à quel point le secteur industriel français avait été ravagé, en particulier dans les 25 dernières années, où ça n'a pas forcément été le cas dans tous les pays européens. On a pu observer une baisse, notamment en pourcentage du PIB, ainsi que dans l'emploi global de la proportion du secteur industriel.
Moins de 12% des emplois contre 18% en Allemagne.
Exactement. Et cette part est restée relativement constante en Allemagne, alors qu'elle est en baisse continue en France. Et c'est quelque chose qui est critiqué depuis très longtemps en France. Et je crois que cette crise du Covid a montré à quel point c'était une réalité empirique lorsqu'on s'est rendu compte du fait que l'Allemagne pouvait répondre quand même plus facilement au niveau des médicaments et au niveau de la production de masques que la France.
Et c'est dans ce contexte, est-ce qu'il y a Bellorame pour y réagir ?
C'est juste qu'en fait, oui, effectivement, il y a cette question de localisation, mais l'Allemagne a aussi réagi plus rapidement parce que les Allemands étaient déjà avant spécialisés dans la production de masques. Du coup, voilà, c'est probablement parce que les Français étaient spécialisés dans d'autres choses et exportaient des services, par exemple. Mais effectivement, il y a vraiment, je pense que c'est vraiment la question, on est sur le nœud crucial de se dire quels sont les produits critiques, comment on fait pour définir qu'est-ce qu'un produit critique, et sur ce produit critique, et quand je dis critique, ça veut dire qu'on a besoin pour lequel il faut qu'on puisse être en mesure d'avoir de la production, parce que quoi qu'il se passe, il faut qu'on puisse les produire.
Et un produit critique, c'est peut-être par exemple une bouteille d'oxygène médical haut de gamme, comme celle que fabrique l'usine de l'entreprise Luxfer à Gerza, dans le Puy-de-Dôme, et pourtant, cette entreprise va fermer.
Absolument. Et du coup, il y a vraiment cette question-là, et ça peut être également des médicaments. Ça, voilà. Et on revient exactement à la discussion de tout à l'heure, de dire c'est un équilibre entre les coûts et le reste. Et donc, probablement, il y a un moment où, une fois qu'on a identifié ces produits critiques, il va falloir des politiques publiques un peu volontaristes pour rapatrier ou en tout cas renforcer la production nationale. Aussi parce que le problème de rapatrier, tout à l'heure on disait, le sujet c'est la diversification. Ce qui veut dire que si on ne fait que produire domestiquement et on arrête complètement d'importer, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que le jour où le choc est national, on va être dans la même situation qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver avec une nécessité sûrement de politique volontariste.
Tout l'enjeu, Laurence Daziano, c'est effectivement de savoir quelle marchandise est jugée critique, stratégique et quelle marchandise ne l'est pas.
Alors tout à fait. Donc il y a déjà le premier point, c'est qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on doit produire, et est-ce qu'on est en capacité de le produire, parce que bon, comme vous le savez, la France a une fiscalité des entreprises qui fait que c'est pas toujours intéressant de produire en France. Les produits de faible valeur ajoutée qui peuvent être pourtant très utiles, on l'a vu avec les masques, produire en France ça coûte très cher. Il y a des produits de haute technologie, on a peut-être pas non plus les compétences parce qu'on en a d'autres, et le temps d'acquérir ces compétences, c'est toute une politique publique de l'éducation qu'il faut mettre en place. Et puis pour revenir sur le sujet des entreprises et un sujet fiscal, vous avez, si vous voulez que les entreprises se développent en France, c'est tous les impôts de production qu'il faut réduire, parce que on l'a vu par rapport à l'Allemagne, on en a deux fois plus.
Impôts de production qui doivent précisément être réduits, c'est le projet du plan de relance qui doit être annoncé jeudi, on va en reparler, mais d'abord, je voudrais vous faire entendre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'était le 9 mars dernier.
Il y aura un avant et un après cette épidémie de coronavirus sur l'organisation de l'économie mondiale. Et que nous voyons bien dans un certain nombre de secteurs à quel point il est important de réfléchir à une meilleure organisation des chaînes de valeur, à une relocalisation d'un certain nombre d'activités stratégiques, en particulier dans le domaine de la santé, et à bâtir une mondialisation où les chaînes de valeur soient mieux protégées, plus indépendantes et évitent également des déplacements qui sont parfois inutiles, alors même que certaines productions pourraient être faites à proximité.
On l'entend, la crise a relancé le débat sur les relocalisations industrielles. Cette crise du coronavirus, Cécilia Bellora, elle pourrait accélérer donc ce processus de relocalisation dont il faut préciser qu'il avait déjà été entamé.
Absolument. En fait, c'était exactement ce qu'on décrivait Madame Daziano au début de l'émission, avec ce basculement entre quelque part une mondialisation, enfin un multilatéralisme vers une régionalisation, et ce qui était effectivement déjà visible en Union européenne, puisqu'au final, quelque part, l'échelle de raisonnement pour nous, c'est oui la France, mais c'est également l'Union européenne. Donc effectivement, c'était si c'était pas complètement de la relocalisation, c'était ce qu'on disait aussi, c'était un arrêt, une normalisation de la mondialisation par rapport à cette explosion qu'on a vue entre 90 et 2000-2010.
Pour entrer un petit peu dans le détail, si jamais ce processus de relocalisation qui, selon l'économiste El Mouhoud par exemple, remonterait aux années 2010-2012, ce processus serait lié selon lui également à la hausse des coûts unitaires salariaux en Asie, et du coup, ce qu'on peut se demander, François Gérolf, si les activités qui pourraient être relocalisées en France sont exclusivement celles qui sont automatisables. C'est l'un des grands enjeux.
Oui, c'est effectivement une grande question. On se pose la question, étant donné que le secteur industriel est devenu très très intensif en capital et non pas en travail, est-ce que vraiment il y aura beaucoup d'emplois industriels à attendre d'une relocalisation en France, ou est-ce qu'on va simplement relocaliser des usines sans ouvriers en quelque sorte? Je crois que ça fait partie effectivement du problème, mais je voulais revenir sur cette question des impôts de production qui était évoqué. Il me semble que il faut replacer ce débat sur la mondialisation et l'avantage comparatif dans un contexte historique plus large. C'est une question très ancienne, en fait, aussi ancienne que l'économie, de savoir si on est mercantiliste ou si on laisse le commerce libre. Et en fait, quand on regarde l'histoire économique, c'est pas simple d'avoir une réponse sans aucune ambiguïté. Et notamment, il faut se rappeler que Keynes avait une position assez ambiguë sur le sujet. Il a réhabilité, en quelque sorte, les mercantilistes dans le chapitre 23 de la théorie générale, en particulier pour ceux qui ont lu cet ouvrage. Il réhabilite les mercantilistes et dit en fait
qui accorde un rôle important à l'État dans la stratégie industrielle.
Exactement, dans la stratégie industrielle, ainsi qu'aux surplus commerciaux, au fait d'essayer à tout prix de dégager des surplus commerciaux et de ne jamais se retrouver dans une situation française de déficit du commerce. Il y a effectivement deux façons, comme disait Keynes, de répondre à une situation de manque de compétitivité. Il me semble que le gouvernement fait ce qu'il a à faire, à savoir qu'il n'a pas le choix, en quelque sorte, que de faire une politique de compétitivité, de réduire les coûts au plus possible, de diminuer les impôts sur les entreprises.
Donc, d'où la diminution des impôts de production.
Exactement.
Qui ont coûté aux collectivités qui perçoivent ces impôts.
Exactement, et qui est considérée généralement comme une politique de l'offre. Mais il y a une alternative, qui est une politique de la demande dans les pays en surplus commercial, et notamment en Allemagne, on pourrait penser, ou dans les pays dits frugaux, comme les Pays-Bas et l'Autriche, qui serait pour eux de relancer leur demande. Et c'est ce que disait Keynes, il faut, dans une situation de déficit et d'excédent commercial, il y a deux façons de résoudre le problème. Le pays en déficit peut augmenter sa compétitivité, et c'est la seule chose qu'il peut faire de façon unilatérale, sans coordination, ou alors il peut demander aux autres de diminuer la leur en transférant des prélèvements des entreprises vers les ménages.
Ce que vous nous expliquez, François Gérolf, c'est que, selon vous, les pays du Nord devraient consommer davantage, par exemple, en baissant leur TVA de manière pérenne, et cela pour rééquilibrer la demande au sein de l'Union européenne.
Exactement. Et donc, en fait, c'est exactement ce que l'Allemagne a fait, mais de façon temporaire. Elle a diminué son taux de TVA de 3 points. Mais ce qu'on pourrait demander, ou ce qu'on pourrait essayer de négocier avec l'Allemagne, peut-être, et en contrepartie d'une diminution des impôts de production en France, ce serait une diminution plus durable de ces impôts sur la consommation pour rééquilibrer la demande en zone euro et faire en sorte que les secteurs industriels soient plus équilibrés entre pays dans la zone euro.
L'État peut effectivement agir sur la fiscalité à travers ses impôts de production, comme on l'a dit, mais quels sont les autres moyens dont il dispose dans le plan de relance qui sera annoncé jeudi? Il y aurait 15 milliards d'euros qui seraient consacré à l'innovation et aux relocalisations. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière lors de la visite de l'usine Sequence de Villeneuve-la-Garenne, qui est spécialisée justement dans les principes actifs des médicaments. Comment l'État peut-il favoriser les relocalisations? Est-ce que c'est son rôle, Cécilia Bellorin?
Sur ces questions de produits critiques, oui, ça peut être tout à fait son rôle. C'est-à-dire que vu les différentiels de coûts de production qu'on peut constater entre l'Union européenne et des pays asiatiques, entre autres parce que nous avons en Union européenne des normes à la fois sociales et environnementales auxquelles on tient, du coup, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut une volonté forte. Et donc oui, il faut une intervention de l'État. Et c'est tout à fait le rôle de l'État sur les produits critiques. Encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est qu'un produit critique. C'est toute la difficulté d'intervenir pour favoriser ce type de relocalisation.
Vous êtes d'accord, Laurence Desgiano, c'est bien à l'État de mener cette politique.
En tout cas, sur tout ce qui est, comme disait Cécilia, sur tout ce qui est normes, parce qu'aujourd'hui, dans le commerce international, on parle beaucoup des droits de douane, mais les droits de douane ne représentent plus grand-chose. Les vraies barrières à l'entrée des marchandises, ce sont surtout les normes, et essentiellement les normes sanitaires, sociales, environnementales, ce qui fait qu'effectivement, nos coûts de production en Europe sont aussi plus élevés, parce qu'on paye pas les gens au lance-pierre, parce qu'ils ont des conditions pour travailler qui sont ce qu'elles sont, on a aussi des normes environnementales. Donc ça aussi, c'est à préserver, et c'est d'autant plus important que ce sont des normes que l'on arrive peu à peu aussi à transmettre aux pays avec lesquels l'Union européenne signe des accords, notamment l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Il y a tout un pan de normes environnementales, sociales et sanitaires qui est inclus. Donc c'est le moyen aussi de peut-être, alors à très long terme, mais de rééquilibrer aussi les choses.
Cette question environnementale est évidemment fondamentale. Dans le plan de relance prévu par le gouvernement, il y a 30 milliards d'euros qui devraient être consacrés à des investissements verts afin d'amorcer ou d'accélérer la transition écologique de l'industrie. François Gérolf, est-ce que ces fonds, 30 milliards d'euros, c'est particulièrement conséquent, pourrait permettre d'amorcer un nouveau mouvement selon vous?
Oui, je crois que c'est effectivement quelque chose vers lequel il faut aller, et que on peut retourner en quelque sorte cette théorie des avantages comparatifs contre la mondialisation en disant finalement la raison pour laquelle il y a des différences de coûts fiscaux, sociaux et environnementaux entre les différents pays, c'est justement que les régulations en place sont différentes, et c'est là la source des gains à l'échange. Et donc on peut en quelque sorte être anti-mondialisation à partir des avantages comparatifs en disant ça permet, si vous voulez, de faire un dumping fiscal sur les pays qui ont des fiscalités plus généreuses, des systèmes sociaux plus généreux, une préoccupation à l'environnement plus forte. Et donc je crois effectivement que réfléchir à la réindustrialisation dans le cadre d'une politique environnementale telle que l'Europe veut la mener est quelque chose de très important.
Mais là, on rejoint cette nécessité d'une régulation au niveau international, parce que ce qu'on constate, Cécilia Bellora, c'est que on a beaucoup de mal à mettre en place la taxe carbone ou à ce qu'elle soit effective. Or, il y a une étude de l'OCDE qui est parue il y a un an, qui a révélé que 70% des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas fiscalisées sans taxe carbone véritablement effective. Est-ce que la transition écologique de l'industrie est condamnée à stagner?
Il est certain que d'un point de vue pour les économistes, l'instrument quelque part le plus efficace à mettre en place, c'est effectivement une taxation carbone. On a vu par ailleurs que l'économie politique de l'instrument n'est pas simple, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec des transitions et en essayant de répartir la charge de ce type d'instrument sur l'ensemble des secteurs et ne pas en pénaliser certains.
C'est rapidement vécu comme une fiscalité punitive.
Absolument. Et en plus, ça, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre sont un problème global. Et qu'on ne pourra pas résoudre avec des politiques unilatérales. C'est-à-dire que l'Union européenne a une politique sur les émissions de gaz à effet de serre qui est assez ambitieuse, qui est d'ailleurs une des plus ambitieuses. Mais si on n'arrive pas à ramener dans notre camp, et en tout cas dans le camp des politiques environnementales volontaristes, aussi les autres grands pays émetteurs, on ne peut pas y arriver. Au contraire, il est tellement intéressant de laisser taxer le carbone par certains pays et surtout ne pas le taxer chez soi que ça ne peut pas marcher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une réflexion au niveau de la Commission, et normalement ça devrait arriver pour l'année 2021, pour avoir des taxations à la frontière. Sauf que cet instrument-là aussi est compliqué à mettre en œuvre, parce que en gros, vous arriverez avec une taxe à la frontière, vous arriverez en partie à rééquilibrer le problème de compétitivité pour les entreprises européennes, au moins sur le marché européen. Ce n'est pas dit que vous puissiez le faire sur les marchés étrangers. Et alors, de là à embarquer dans ce côté volontariste aussi les États-Unis, c'est encore une autre paire de manches.
Laurence Daviano, sur les difficultés à taxer le carbone, malgré les avantages économiques et écologiques, surtout, de cette méthode.
La taxe carbone, que moi je préfère appeler la taxe climat, d'ailleurs, c'est vrai que c'est très difficile à mettre en place. Et à partir du moment, comme disait Cécilia, où les deux plus gros pollueurs mondiaux, que sont les États-Unis et la Chine, ne font rien, on pourra toujours s'époumoner, essayer de faire quelque chose, ça n'aura pas d'impact véritablement.
Et le nouveau directeur, le nouveau patron de l'OMC pourra jouer un rôle sur ce plan, puisqu'on l'a dit, son ancien patron Roberto Azevedo quitte l'OMC. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux autour de ce nouveau patron.
Alors les enjeux pour ce nouveau patron, je ne sais pas si la taxe carbone ou l'écologie ou l'environnement va être dans ses premières préoccupations. Sa première préoccupation, je pense, va être déjà de remettre en place une OMC qui va être autre chose qu'un forum de discussion. Parce que l'objectif de l'OMC, c'était d'être aussi un endroit où on fait des règles et des règles qui sont appliquées. Donc on a vu que l'organe de règlement des différends n'était déjà plus en service. Donc je pense que son premier cheval de bataille, ça va être celui-là. Ensuite, dans les règles à remettre en place, dans la bonne gouvernance du commerce international, je suis pas sûre que l'environnement soit dans ses priorités, même si, comme beaucoup le disent, on a manqué peut-être la fenêtre de la crise de 2008 pour répondre aux préoccupations de l'environnement. Il faudrait peut-être pas manquer à celle de 2020.
Cécilia Bellora, sur les défis qui attendent l'OMC.
Il y a peut-être quand même un peu le côté environnemental qui est pris en compte, parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir constaté une crise de l'Organisation mondiale du commerce a permis d'en faire une analyse selon différents aspects et de mettre un peu les choses sur la table. Pas complètement, faut pas non plus idéaliser ça, mais clairement sur la table a été mise cette question de l'environnement aussi. Et parce que d'ailleurs, une partie de la discussion qu'on a autour de la taxation carbone à la frontière, tourne autour de est-ce que c'est permettez-moi le jargon, OMC compatible. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de taxer et quelque part, en fait, de discriminer les biens qu'on importe en fonction du mode de production ? Alors ça, c'est en fait, la réponse, c'est non. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire au nom de l'environnement ? Et alors ça, là, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Et donc, il y a quand même, du coup, un enjeu pour l'OMC à clarifier cette position, parce qu'en fait, l'interprétation des règles de l'OMC a évolué au fil du temps, justement sur cette articulation avec l'environnement. Donc peut-être qu'il y a un signal à donner. Et le deuxième rôle que l'Organisation mondiale du commerce peut jouer là-dedans, c'est que de fait, même si ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais de fait, la seule, quelque part, jurisprudence internationale et le système de, comment dire, contraignant international qui existait, puisque maintenant on est un peu dans la difficulté, était celui de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, de fait, l'OMC se retrouvait à statuer aussi sur des questions environnementales. Et donc, par la force des choses, il y a un rôle à jouer là, sur cette question-là. Qui sait, peut-être en essayant d'embarquer des experts d'environnement dans le futur de ce qu'est l'organe d'appel, par exemple.
Peut-on réparer la mondialisation ? C'est notre sujet ce matin dans Entendez-vous l'écho cet après-midi en compagnie de François Gérolf, Cécilia Bellora et Laurence Daviano. On disait tout à l'heure que les critiques de la mondialisation avaient ciblé le creusement des inégalités provoquées par cette mondialisation. Est-ce que cette crise du coronavirus serait éventuellement une occasion de rebattre les cartes entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, Laurence Daviano ?
Alors pour l'instant, ceux qui étaient avant les perdants, enfin ceux qui étaient les gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les pays émergents, puisque les pays émergents émergeaient dans la mesure où leurs revenus augmentaient, ce sont les perdants, parce que pour le coup, comme il y a plus d'échanges, ou alors des pays qui étaient hyper spécialisés sur le pétrole, le gaz, où les prix se sont effondrés, c'est toute la question de l'économie de transfert, c'est-à-dire que Pour eux, c'est une catastrophe parce qu'ils ne vendent plus. Pour nous, c'est très bien parce qu'on achète moins cher. De même, le tourisme, pour nous, on peut plus y aller. Donc, on va dépenser maintenant en Europe. Alors qu'il y avait notamment en Afrique, par exemple, un petit pays comme le Rwanda qui vit beaucoup du tourisme. Alors là, le secteur s'est complètement effondré. Donc là, les anciens vainqueurs, enfin ceux qui en tiraient vraiment parti... Là, ils en tirent moins parti.
Donc les inégalités qui se résorbaient entre pays risquent à nouveau de se creuser.
Risquent de se creuser pour certains pays. Une exception, le Vietnam, puisque le Vietnam exporte beaucoup de produits technologiques et il se porte très bien. Parce que là, il n'y a pas eu de crise.
Et à l'inverse, les inégalités qui se creusent au sein des nations, puisqu'on a beaucoup dit effectivement que la mondialisation avait diminué les inégalités entre nations, mais qu'elle avait augmenté les inégalités à l'intérieur des pays.
Oui, alors ça, on pourrait faire toute une émission sur le vote de l'Américain blanc moyen qui a perdu son travail, qui s'est mis à se droguer et qui a fait élire Trump en 2017. Enfin, je caricature très largement, mais c'est ça. Ah oui, il y a eu toute une partie, et c'est ce que disait tout à l'heure
François Gérol.
François sur ce que disait François sur les perdants de la mondialisation, c'est que il y a eu toute la robotisation. C'est est-ce qu'on va réimporter des usines ou est-ce qu'on va simplement réimporter des robots?
Et François Gérol justement sur ces cartes qui sont rebattues.
Oui, je me demande encore une fois si c'est quelque chose vers lequel on va revenir, s'il faut vraiment réparer la mondialisation ou si on va vers une nouvelle forme de mondialisation. Je pense qu'un signe de ça, c'est que si on regarde la campagne électorale américaine qui se déroule actuellement, il y a un point commun des programmes de Trump et de Biden qui est qu'ils proposent, les deux proposent de réserver les marchés publics américains à des entreprises américaines. Et donc j'ai l'impression que cette idée de la démondialisation, en fait, elle traverse les clivages et que c'est une nouvelle évolution qui vient de l'après-crise.
On arrive presque au terme de cette discussion. Un dernier mot peut-être, Cécilia Bellora, sur cette mondialisation de demain, cette autre mondialisation. On ne reviendra pas à la mondialisation d'hier, disait François Gérolf. Et peut-être vous demander quelle est la mondialisation que vous souhaitez, celle que vous redoutez.
Oula, je sens le point important. Non, c'est difficile de dire ce que je redoute et ce que je souhaite. J'ai l'impression qu'effectivement, on va probablement tendre, en tout cas en France, on va tendre vers une accentuation de cette régionalisation. Déjà aujourd'hui, on commerce surtout et avant tout avec l'Union européenne. Et donc, c'est peut-être l'investissement qu'il faut faire, c'est sur l'Union européenne, c'est-à-dire de rendre cette région dans laquelle nous sommes et avec laquelle nous commerçons quelque chose de solide et de plus en plus solide. Quelque part, ce qu'on racontait tout à l'heure, le fait de dire, on a réussi à sortir des clivages du début de la crise du Covid, de la restriction nationale des exportations vers une attitude plus commune est peut-être un signe d'espoir. Et c'est peut-être d'ailleurs la bonne échelle aussi pour essayer de réfléchir aux relocalisations tout en maintenant une diversification, à des politiques en fait communes. On a déjà quelque chose qui est assez construit, on peut continuer à investir sur ça. C'est peut-être par là qu'il faut tendre.
François Gérolf, Laurence Daziano, même question d'un mot, François Gérolf.
Sur cette
mondialisation que vous redoutez ou que vous souhaitez.
Je souhaite en tout cas qu'il y ait une discussion peut-être plus ouverte sur cette question de la mondialisation. Il y a toujours eu un petit peu une déconnexion entre ce que croit le grand public et même un certain nombre d'hommes politiques ou leur intuition et ce que leur disaient les experts à propos de la mondialisation. Et je crois qu'un grand nombre de ces craintes se sont révélées en partie exactes. Les experts eux-mêmes ont changé en partie, ont un discours aujourd'hui beaucoup plus critique sur la mondialisation, en particulier chez les orthodoxes. Et donc je crois qu'il faut repenser cette mondialisation à l'aune de tout ce qu'on a appris dans ces dernières années.
Laurence Daziano.
La mondialisation, c'est sûr, va évoluer. La mondialisation a quand même permis de sortir plusieurs centaines de millions de personnes de la pauvreté, donc il ne faut pas non plus les laisser en route. Et ce qu'il faut, c'est effectivement, je pense, c'est rester très pragmatique et adapter les politiques et les outils que l'on a quand on voit comment évoluent les situations.
Et on devrait en savoir plus, en tout cas, sur les aides à la relocalisation jeudi, puisque devra être présenté ce fameux plan de relance que l'on attend déjà depuis quelques jours. Merci beaucoup à tous les trois, Laurence Daziano, François Gérolf et Fécilia Bellora, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Les références de vos tribunes et de vos articles sont à retrouver sur franceculture.fr à la page d'Entendez-vous l'écho. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de la bibliothèque de l'écho, une bibliothèque qui s'enrichit du tout dernier ouvrage de Christian Saint-Étienne, Le libéralisme stratège contre le chaos du monde, qui paraît ce mois-ci aux éditions Odile Jacob. Au micro de Marguerite Caton, l'économiste titulaire de la chaire d'économie au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, dénonce l'absence de vision de long terme dont souffre la France. On l'écoute.
Écoutez, vous avez un pays qui était la quatrième puissance du monde il y a 20 ans, qui aujourd'hui est la 6e, 7e et descend presque une marche tous les deux ans. C'est très largement lié à la désindustrialisation du pays qui est à l'œuvre depuis deux décennies. On n'a pas compris l'importance de l'industrie dans notre pays. Le fait que c'est l'industrie qui peut nous sortir des problèmes actuels, notamment pour entrer dans une croissance durable qui permette de lutter contre le réchauffement climatique, mais également une industrie compétitive, c'est ce qui nous permettrait d'accroître la croissance économique du pays, d'améliorer la qualité des emplois, de réduire le déficit extérieur. Or, on ne voit pas depuis une quinzaine d'années que tout le monde a pu observer cette désindustrialisation. On ne voit pas une politique très ferme de réindustrialisation du pays. Alors, on en parle un tout petit peu depuis ce qui s'est passé dans la crise du Covid, notamment quand on s'est réveillé en observant que l'essentiel des bases de nos médicaments venait d'Inde et de Chine. Moi, personnellement, je l'ai dénoncé depuis une dizaine d'années. C'est quand même un cas extrême, parce que on peut toujours dire « c'est le marché ». Là, c'est pas le marché. Il y a un acheteur unique, c'est la sécurité sociale. Donc, l'assurance maladie aurait quand même pu se rendre compte, d'autant plus qu'on pointait ce problème depuis longtemps. Donc, il n'y a pas eu de prise de conscience du fait que nous étions extrêmement dépendants de gens qui pourraient ne pas nous vouloir du bien quand on serait en grande difficulté.
Vous dites qu'on est en train de perdre des places dans la compétition mondiale, et notamment parce qu'on n'arrive pas, la France et l'Union européenne, à s'adapter à ce qui est la nouvelle révolution industrielle qui connaît, dites-vous, aujourd'hui une phase d'accélération. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Quel est le moment économique que nous vivons?
Alors, on a eu trois révolutions industrielles, on ne sait pas l'expliquer, qui ont toutes les trois eu lieu dans les années 80 de leur siècle. Alors c'est surprenant puisqu'après 31 siècles de stagnation, on a trois révolutions.
1780, voilà, 1880, voilà. 1980.
Donc. 1780, c'est la vapeur, 1880, l'électricité. Et alors maintenant, depuis les années 1980, nous sommes dans la révolution de l'informatique. Mais donc cette mutation absolument colossale transforme tout le système industriel, tout le système économique et même le système politique, puisque nous n'aurions pas les réseaux sociaux s'il n'y avait pas eu cette révolution de l'informatique et de la microélectronique.
On est aujourd'hui dans une phase d'accélération de cette révolution de l'informatique. Alors, voilà, dites-nous encore plus précisément où est-ce qu'on se situe.
Alors, on a eu d'abord la mise en réseau des micro-ordinateurs. Ensuite, on a eu l'invention d'une chose qu'on considère comme banale, mais qui est absolument hallucinante, qui est le smartphone. Où, comme les auditeurs le savent, il y a une puissance informatique dans votre petit appareil, dans votre poche, qui est supérieure à la puissance informatique de la NASA quand elle a envoyé l'homme sur la Lune en 69. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça signifie à la fois en termes scientifiques, mais en termes de capacité à réduire la taille des objets. Et puis, on a commencé en 2015, dans une phase d'accélération, la phase de l'intelligence artificielle, qui en elle-même est un sujet majeur. Il y a l'intelligence artificielle banale, celle que nous utilisons à nouveau dans nos smartphones ou sur nos micro-ordinateurs, qui nous permet de faciliter notre vie quotidienne. Et puis, bien sûr, il y a cette intelligence artificielle du futur, mais dont certains disent qu'elle va venir très vite, qui va être plus intelligente que nous. Et donc, c'est nous qui deviendrions les valets de cette intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet majeur en termes de la liberté de chacun de décider. Et puis, la quatrième révolution qui commence sous nos yeux, qui va s'accélérer, c'est celle de l'intelligence et de la modélisation de l'homme et des usines dans des doubles. C'est pas de la science-fiction, ça a déjà commencé. Par exemple, Sanofi a déjà fait réaliser des doubles de ses 50 usines. Et quand ils veulent introduire des modifications des process ou la production de nouveaux médicaments, ils simulent ces productions sur les doubles. Et puis ensuite, on bascule la production du jour au lendemain sur les usines réelles. Donc c'est absolument incroyable en termes de transformation. On va avoir aussi l'informatique quantique. Aujourd'hui, on est dans l'informatique électrique. Donc ça, c'est presque un facteur 1000 par rapport à ce que nous connaissons à nouveau en termes de vitesse. Il y a toutes les mutations de l'espace qui vont accélérer la révolution industrielle. Donc on est dans une quatrième accélération de cette troisième révolution industrielle. Alors parfois, il y a une confusion. Certains parlent de quatrième révolution industrielle, mais on est toujours dans la révolution de l'informatique. Donc les gens qui pensent que ça va se calmer, se trompe, ça ne fait qu'accélérer. Non seulement la France, hein, mais je suis très clair dans ce livre et dans des précédents, mais je le rappelle ici, l'Europe aussi a loupé dans son ensemble cette troisième révolution industrielle. Quand on regarde les grands acteurs de cette mutation, les GAFAM américains ou les BATHX chinois, bah vous n'en avez pas non plus en Allemagne. Il n'y en a pas en France, mais il n'y en a pas en Allemagne. Donc c'est toute l'Europe qui doit se réveiller. Sinon, on sera écrasé dans ce qui aussi va constituer un élément clé de notre environnement, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale.
Donc l'Europe est en retard. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? C'est le droit de la concurrence européen qu'il faut d'abord renouveler, refonder, si on veut s'insérer dans cette révolution dont on comprend bien que le mouvement nous échappe pour l'instant encore en partie.
Quand on a créé cette... D'abord communauté européenne, puis ensuite l'Union européenne, il fallait un principe fondateur. Puisqu'il ne s'agissait pas de rechercher la puissance, puisqu'il s'agissait d'éviter les guerres, on a choisi de construire l'Europe sur le principe de la concurrence. C'est-à-dire qu'on voulait des marchés ouverts à l'intérieur de cette communauté où domine le droit de la concurrence. C'est d'ailleurs l'arme de la Commission européenne contre les États membres de l'Union européenne. Alors là, à nouveau, tant qu'on était dans un verre d'eau, ça n'avait pas d'importance. Mais maintenant que nous sommes à l'intérieur de ce conflit mondial entre la Chine et les États-Unis, ça ne fonctionne plus. Voilà, on ne peut plus se retrouver dans la situation actuelle où le marché unique est ouvert aux Américains et aux Chinois, alors qu'il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire que les entreprises européennes font pas ce qu'elles veulent en Chine, pas tellement plus d'ailleurs aux États-Unis. Le vrai marché pertinent en Europe, c'est l'Europe. Et donc, il faut favoriser l'émergence d'acteurs qui soient à la taille des États-Unis et de la Chine. Donc, on se retrouve avec des acteurs européens qui sont des nains face à des géants qui, en plus, n'hésitent pas à les écraser en les regardant droit dans les yeux. Donc, il faut qu'on se réveille avant d'être écrasé.
Le titre de votre ouvrage, Le libéralisme stratège, c'est ce que vous voudriez que l'État devienne, un État libéral et stratège. Aucune contradiction dans ce terme, Christian Saint-Étienne?
Alors, beaucoup d'auditeurs penseront que c'est une contradiction, bien sûr, parce que en France, on ne sait pas ce qu'est le libéralisme. Alors, le libéralisme politique, c'est la volonté de donner son indépendance à l'individu de raison. Donc, la notion d'état de droit est absolument essentielle. C'est celle qui proclame les droits civiques, les droits politiques, qui permettent aujourd'hui d'être des citoyens libres. Donc, il y a un état de droit qui est l'ensemble des règles institutionnelles et constitutionnelles. Et puis, il y a un état instrument, qui est donc l'état régalien et stratège, qui doit mettre en œuvre cette politique. Et je trouve que, d'abord, il n'y a pas d'état stratège au niveau européen. Et la France a avait un État qui était stratège dans les années 60, même dans les années 50, sous la 4e République. Dans les années 60, 70, on a eu un État qui favorisait beaucoup le développement des technologies à l'époque, a beaucoup développé l'éducation, les infrastructures. Et puis, à partir des années 80, 90, ça fait 40 ans, gauche et droite confondues, on a cessé d'investir massivement sur le long terme. On n'a pas suffisamment investi sur les technologies à partir des années 90. On a plutôt investi sur le social, sur la réduction du temps de travail, sur l'abaissement de l'âge de départ à la retraite. Tout ça a coûté extrêmement cher. Donc, c'est l'argent qui a servi à faire ces mutations sociales, ça n'a pas été investi dans les technologies. Et donc, on a une compétitivité qui s'est très fortement érodée. Et le résultat, c'est celui que nous connaissons tous. L'industrie manufacturière en France, c'est 10 points de PIB, en Allemagne, c'est 21. Et pour comprendre, alors les gens pourraient dire, mais on s'en fout que l'industrie soit à 10 ou 21, en quoi ça nous concerne?
Non, mais pas de consommation sans production, vous
voilà,
le dites.
Non seulement il n'y a pas de consommation sans production, mais pour bien comprendre l'importance de l'industrie, il y a ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%, alors que nous sommes dans tous les pays développés des économies de services à 80% à peu près partout. L'industrie en moyenne dans les pays développés, c'est autour de 15 à 16% du PIB. Donc, on a des économies qui sont à 80% des économies de services. Mais quand vous regardez le commerce international, plus de 80% du commerce international hors matières premières et énergie, c'est de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, c'est tout petit dans l'économie, mais c'est les 4/5 du commerce international. Et si nous avons toujours des déficits extérieurs, c'est parce que on n'a plus de capacité à exporter.
Vous proposez donc de favoriser l'investissement productif et de réduire le déficit public en même temps. Et alors là, comment on fait ?
C'est pas du tout contradictoire. Ce qu'il faut, c'est d'abord faire un certain nombre de réformes qui permettent de réduire la dépense publique. Alors c'est très important ça, puisqu'on a une dépense publique qui fait 56 points de PIB. Enfin en 2019, cette année on va être à 65, mais c'est temporaire, espérons. Et sur ces 56 points, effectivement, on a 33-34 points de protection sociale. C'est de l'ordre de 8 à 9 points de plus que la moyenne des autres pays européens. Mais quand vous regardez l'action publique hors protection sociale, l'État français est plutôt
faible
et à un niveau de dépense qui est faible, ce qui surprendra peut-être les auditeurs, parce qu'on a l'impression qu'avec l'accumulation des communes, départements, régions, on est suradministré. On l'est peut-être en bureaucratie, mais le poids des administrations publiques hors protection sociale est faible. Et donc, ce que je propose, c'est une restructuration au sens où, soyons clairs, avec le vieillissement de la population, si on veut pas mettre tout ce que nous produisons dans le paiement des retraites, il faut reculer l'âge de départ à la retraite, il faut faire un certain nombre de rationalisations au niveau des collectivités locales. Si on veut retrouver une croissance durable forte, il faut absolument redynamiser nos territoires, réfléchir à des nouvelles modalités de transport et surtout, bien sûr, travailler sur le bâti. Ça permettrait de réduire massivement les gaz à effet de serre, de réduire les importations de pétrole, donc de contribuer au rééquilibrage du commerce extérieur.
Santé, logement, éducation, production, institutions politiques, aucun domaine n'échappe aux 15 propositions détaillées qui sont en annexe de votre ouvrage. Christian Saint-Étienne, vous aviez rédigé le programme économique de François Bayrou pour la campagne présidentielle de 2007. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de l'annonce d'un plan de relance de 100 milliards d'euros. Alors à qui s'adressent vos propositions ? Est-ce que c'est à François Bayrou qui doit bientôt prendre la tête d'un futur commissariat au plan ou au ministre de la relance, Bruno Le Maire ?
J'ai pas la prétention de transformer la vision du ministre Le Maire dont le plan doit déjà être écrit. Mon objectif, c'est qu'on comprenne que la France est en danger dans son existence même, dans la mesure où nous avons un endettement colossal, pas seulement l'endettement public, mais l'endettement global, puisque nos entreprises également sont très endettées, puisque comme on n'a pas suffisamment investi, qu'elles sont pas assez compétitives, elles n'ont pas des marges qui leur permettent de se développer sans s'endetter. Donc on a un système qui est très alourdi, à la fois dans la production, dans l'action publique. Mon objectif, c'est de lancer un débat.
Je vous remercie, Christian Saint-Etienne. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le libéralisme stratège, publié par les éditions Odile Jacob.
C'est la fin de votre magazine d'économie. On se quitte avec 900 Days d'Asaf Avidan. Et on se retrouve demain pour le premier épisode de notre série consacrée à l'énergie du futur. La rénovation énergétique sera-t-elle le levier de la croissance? On posera la question au fondateur de Negawatt, Olivier Sidler. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.